Radio Prague, les informations.
Bonjour, le contrat avec le fabricant coréen de pneus Nexen a été signé par le Premier ministre. Hyundai Mobis prévoit de s'installer dans la région d'Ostrava et de créer 900 emplois. Et puis enfin, l'OCDE conseille à la République tchèque de renforcer la prévention du diabète et des maladies liées à l'obésité et au tabagisme. Comme annoncé en titre, approuvé la semaine dernière par le gouvernement, le contrat avec le fabricant coréen de pneus Nexen a été signé ce mercredi par le Premier ministre Borislav Sobotka et les responsables de l'entreprise. Nexen va s'implanter dans la zone industrielle de la région de Jatetz en Bohême du Nord. Entre 2016 et 2023, le montant de l'investissement devrait s'élever à 829 millions d'euros. Ce montant fait de la Corée du Sud le troisième plus grand investisseur étranger en République tchèque après l'Allemagne et le Japon. Un millier de personnes devraient trouver un emploi dans l'usine. Pour attirer Nexen dans le pays, le conseil régional d'Oustine de la Bême a approuvé en mai dernier la vente au prix d'un euro le mètre carré d'un terrain de 60 à 70 hectares. Et puis Hyundai Mobis, filiale d'équipements automobiles du groupe Hyundai, prévoit de s'installer dans la zone industrielle de Mochnov. C'est dans les environs de la ville de Novi Ichin, dans l'est de la République tchèque. La société coréenne entend construire une usine pour la construction de phares d'ici à 2016. L'investissement, dont le montant est estimé à 90 millions d'euros, devrait permettre la création de 900 emplois dans un premier temps dans une région où le taux de chômage s'est élevé à 10% en mai. Ce mercredi, le conseil municipal d'Ostrava a donné son accord pour la vente de 18 hectares à la société au prix symbolique d'une couronne le mètre carré et approuvé le projet de contrat d'investissement permettant ainsi la poursuite des négociations avec les dirigeants coréens. Le gouvernement a approuvé ce mercredi la poursuite de son programme d'aide humanitaire en Ukraine. Une dizaine de personnes, en majorité des enfants, des femmes et des personnes âgées, seront ainsi évacuées pour être soignées en République tchèque. L'information a été communiquée ce mercredi par le ministère de l'Intérieur qui a précisé que 10 millions de couronnes, soit environ 365 000 euros supplémentaires, seront consacrés au programme. Depuis le début de la crise, la République tchèque a déjà accueilli 39 Ukrainiens blessés lors des affrontements à Kiev. S'orienter sur la prévention du diabète et d'autres maladies chroniques, y compris la réduction du nombre d'obèses et de fumeurs, c'est ce que conseille l'étude de l'OCDE sur les soins de santé en République tchèque, présentée ce mercredi par le ministère de la Santé. Ces maladies sont en effet en moyenne plus nombreuses et leur nombre augmente plus rapidement en République tchèque que dans les autres pays de l'OCDE. Parallèlement, l'organisation internationale a apprécié le fait que le nombre de crises cardiaques et d'infarctus mortels avait baissé de plus de moitié en l'espace de 10 ans. Toujours selon cette étude, la République tchèque est le seul pays membre de l'OCDE où le tabagisme est en hausse. Entre 2000 et 2011, la part des fumeurs quotidiens au sein de la population adulte a augmenté de 5%, tandis que la moyenne pour l'ensemble des pays a baissé de 21%. Sport et cyclisme, comme l'année dernière, Roman Kreuziger ne participera pas au championnat de République tchèque ce dimanche à Slavkov, ou Austerlitz si vous préférez, dans les environs de Brno en Moravie. Le coureur tchèque a expliqué ce mercredi sur son site internet qu'il préférait affiner sa préparation en Italie en vue du Tour de France, dont le départ sera donné à Leeds en Grande-Bretagne le 5 juillet. Huitième du Tour de Suisse la semaine dernière, Roman Kreuziger sera une nouvelle fois un équipier de luxe sur les routes du Tour pour l'Espagnol Alberto Contador et ce au sein de l'équipe Tinkoff-Saxo. On termine comme toujours avec un mot de météo. Aucune évolution notable n'est attendue. Les nuages restent très présents, notamment dans le nord-est du pays ce jeudi. Ce jeudi qui est le jour de la fête des Adriana et Adriane. Quelques averses restent possibles quant aux températures. Elles varient entre 16 et 21 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qu'a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. On retrouve maintenant Pierre Maignan qui nous accompagne pour la suite de notre programme. Très bonne écoute. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à tous mes chers amis pour la suite de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Merci tout d'abord à Guillaume Narguet pour son remarquable bulletin d'information. Au programme de ce mercredi, Prague se cherche un nouveau grand rabbin après la démission à ce poste de l'emblématique Carol Sidon. Des fouilles archéologiques mettent au jour un squelette humain vieux de plus de 4000 ans et un hommage dans notre rubrique historique aux pilotes tchécoslovaques qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la Royal Air Force. Un programme alléchant donc. Bonne écoute à tous et à toutes. Changement de leadership en perspective pour l'une des plus anciennes communautés juives d'Europe. En effet, le grand rabbin de Prague, Carol Sidon, en poste depuis 1992, a fait savoir ce lundi par le biais d'un communiqué de presse qu'il quittait ses fonctions. Il conservera néanmoins son titre de grand rabbin de République tchèque. Une assemblée des principaux dirigeants de la communauté devrait avoir lieu le 14 juillet prochain pour décider du nom de son successeur. Un sujet signé Léna Sabadel.
Tout comme la communauté juive de France, qui a élu la semaine dernière son nouveau grand rabbin en la personne d'Aïm Korsia, la communauté juive de Prague cherche, elle, un nouveau remplaçant à l'une de ses figures les plus emblématiques, Carol Sidon, qui cumule à la fois le titre de grand rabbin de Prague et celui de grand rabbin de la République tchèque. Âgé de 71 ans, il a fait savoir par le biais du président de la communauté juive de Prague, Jan Munk, qu'il avait pris cette décision de manière personnelle en raison de son âge, mais également afin de lui permettre de se consacrer pleinement à son activité d'écrivain.
Cette démission ne doit pas et ne devrait pas être une surprise pour les membres de la communauté juive, puisque cela fait depuis longtemps que je prépare mon départ, que j'ai donc eu l'occasion de l'annoncer. J'ai proposé aux représentants de la communauté il y a quelques années un candidat pour reprendre ma fonction de grand rabbin de Prague, mais ma proposition a été écartée de deux voix lors d'un vote, car les représentants lui ont préféré le rabbin David Peter, qui a suivi sa formation durant plusieurs années en Israël. Une fois qu'il aura pris ses fonctions, j'ai fait savoir que je lui céderai les locaux dès qu'il aura commencé à trouver ses repères.
Po jeho nástupu jsem také oznámil, že mu úřad předám, až se zapracuje.
Avant de s'imposer comme leader spirituel de la communauté juive de Prague, Carol Sidon a d'abord été sous le régime communiste, un dissident actif sur la scène littéraire. Il est contraint néanmoins à l'émigration après avoir signé la charte 77 et suite aux nombreuses pressions que lui a fait subir la police secrète tchécoslovaque, la STB. Il part donc suivre des études judaïques en Allemagne et ce n'est seulement qu'au début des années 1990 qu'il rentre dans son pays natal où il est nommé grand rabbin de Prague et de République tchèque après avoir parfait sa formation en Israël. S'il n'a jamais cessé d'écrire, son poste de grand rabbin l'a contraint à plus de discrétion face aux critiques de certains membres de la communauté juive qui l'ont accusé de ne pas se consacrer pleinement à ses fonctions honorifiques. C'est donc sous le pseudonyme de Chaim Sigan qu'il a continué sa carrière. Il a d'ailleurs publié au début de cette année le premier tome d'une trilogie intitulée « Altschlova Metoda ».
Cela faisait longtemps que je n'étais plus dans la sphère littéraire. C'est un peu comme si une personne âgée avec ses genoux fatigués se mettait à courir. C'est d'une certaine manière assez amusant.
Pour ce qui est du bilan du mandat de Carol Sidon, celui-ci a été marqué par la crise qui a fait suite à sa révocation au poste de grand rabbin de Prague en juin 2004 par l'ancien président de la communauté juive de la capitale tchèque, Tomáš Jelínek. Cela avait entraîné une lutte de pouvoir entre d'une part les partisans du mouvement hassidique Shabbat et les partisans de Carol Sidon, adeptes d'une approche plus libérale de la religion. La crise avait d'ailleurs trouvé écho jusqu'en Israël, où un arbitre religieux avait été chargé de résoudre le conflit. Au final, Carol Sidon avait retrouvé son poste de grand rabbin de la ville de Prague en novembre 2005, mettant ainsi fin à plus d'un an d'instabilité. Aujourd'hui, la hache de guerre semble être enterrée, comme l'explique le grand rabbin Carol Sidon.
Par principe, je ne voulais pas revenir sur un épisode qui, de mon point de vue, appartient au passé. Je ne cultive de rancœur à l'égard de personne. Cela va de pair avec le fait que je pense que les choses ont leur temps, qu'elles doivent prendre fin et qu'il faut donc ne pas s'épancher plus sur le sujet.
Aby skončili a prostě jako se dál nerozvěřovali.
Avec près d'un millénaire de présence, la communauté juive de République tchèque compte parmi les plus anciennes d'Europe centrale où elle a fortement contribué au dynamisme culturel et économique de la région. Si près de 120 000 juifs étaient installés en Bohême et Moravie au début du XXe siècle, ils ne sont plus que 15 000 aujourd'hui, avec seulement 3 000 enregistrés officiellement. L'Holocauste, puis la longue période communiste, ont en effet décimé la population juive et forcé une grande partie à émigrer. Ce n'est qu'après la révolution de velours de 1989 que la communauté s'est lentement reconstruite autour de personnalités emblématiques comme celle du rabbin Carol Sidon. Peu après l'annonce de son départ au poste de grand rabbin de Prague, voici les vœux qu'il formulait pour la communauté.
Je serais très content si la communauté juive de République tchèque s'ouvrait un peu plus aux juifs venus de l'étranger. Il faut à la fois que les membres de la communauté locale comprennent qu'ils sont avant tout des juifs et que les juifs en provenance d'autres pays comprennent qu'ils ont une communauté qui n'attend qu'eux et où ils pourront trouver leur place. Alors qu'il est promis à une prochaine reconstruction, le marché aux choux, place emblématique de la ville morave de Brno, fait actuellement l'objet de fouilles archéologiques, des travaux fructueux puisque les archéologues en charge du chantier, en plus de différents reliquats du Moyen-Âge, ont mis au jour un squelette datant de l'âge du bronze. 7 ans après sa première annonce, le réaménagement du marché aux choux a enfin débuté au printemps dernier. La métropole morave se modernise pour le plus grand bonheur de Roman Burian, le porte-parole de la mairie de l'arrondissement Brno-Centre, qui détaille les évolutions que va subir la place.
Quand tout sera fini, cela sera beau ici. En tout cas, nous l'espérons. La surface de la place va changer. Il y aura plus d'arbres, de bancs, d'éléments aquatiques et d'espace pour les vélos. Le visage de la place du marché devrait, elle aussi, subir un changement.
Et avant que le chantier proprement dit ne débute, la loi prévoit une phase d'archéologie préventive qui doit livrer les secrets que cache le sous-sol de cette place, vieille de plus de 7 siècles. Employée au service historique du musée de la ville de Brno, Dana Olivova revient sur cette longue histoire.
Cette place, le marché aux choux, s'appelait à l'origine la place haute. Cela signifie qu'il devait à l'époque y avoir une autre place à Brno qui était la place basse et qui correspond aujourd'hui à la place de la liberté. La place haute n'était au début pas mentionnée en tant que telle dans les écrits, et ce jusqu'en 1293, quand ce territoire a été divisé entre les paroisses de Saint-Jakub et de Saint-Péter.
Toto místo mezi faru u svatého Petra u svatého Jakuba.
Avant le XIIIe siècle, une taverne trônait à l'emplacement de la place qui, en plus de ses fonctions de marché, servira également plus tard à rendre la justice. Les fouilles témoignent de ce passé judiciaire puisqu'un ancien pilori a été mis en évidence. Les archéologues ont aussi fait main basse sur des fragments de céramique ou sur différentes monnaies en usage au Moyen-Âge et une cave datant du XIVe siècle a été dégagée. Des découvertes qui ravissent l'archéologue Antonin Zubek, lequel chaperonne les recherches.
Nous savions que les fouilles archéologiques au marché aux choux seraient riches, même s'ils restent marqués par l'activité de nombreux anciens travaux d'ingénieurs et par différents niveaux de construction. Le terrain archéologique est relativement bien conservé, mais nous avons été surpris par l'état de certains monuments et nous ne nous attendions pas à mettre la main sur certains objets que nous avons pu trouver.
Ainsi, l'archéologue ne s'attendait sans doute pas à tomber nez à nez avec le squelette d'un être humain qui aurait connu la vie il y a environ 4000 ans, à l'âge du bronze. Du squelette originel, il ne reste que la jambe gauche, le bassin et le fémur droit. Notre ancêtre, dont les causes du décès sont pour l'heure inconnues, a pourtant des choses à nous dire, Antonin Zubek.
Ta kostra patří teda nedospělému jedinci.
Ce squelette est celui d'un individu qui n'a pas atteint l'âge adulte. Des analyses anthropologiques en laboratoire doivent nous permettre de préciser son âge, mais il s'agit sans doute d'un enfant. Le puits dans lequel nous l'avons trouvé était à l'origine utilisé pour entreposer du grain. Il ne semble donc pas que ce squelette soit la preuve d'un rite funéraire, car les sépultures de cette époque ont un aspect différent.
Une curiosité qui pourrait s'expliquer, selon Antonín Zubek, par le fait que l'individu vivait à la marge de la communauté humaine qui occupait la région ou qui lui était tout simplement étranger. Les archéologues ont pour l'instant prospecté la moitié de la surface d'un chantier qui devrait être achevé à l'automne prochain. Les pilotes tchécoslovaques ayant combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la Royal Air Force ont un nouveau monument à Prague. Inauguré le 17 juin dans le quartier historique de Malá Strana, la statue représentant un lion ailé a été offerte par la communauté britannique vivant en République tchèque en signe de remerciement de leur héroïsme. Un reportage, un sujet, signé Jaroslava Gisubelova.
Chapitre de l'histoire.
Plusieurs centaines de personnes, quelques anciens combattants, ainsi que le petit-fils de l'ancien premier ministre britannique Winston Churchill, ont participé à la cérémonie d'inauguration à Klarov, non loin du château de Prague. Tandis qu'en 1940, au moment de la bataille d'Angleterre, Winston Churchill a affirmé à propos de l'importance du rôle joué par la RAF que « jamais tant de gens n'ont dû autant à si peu », son petit-fils Nicholas Soames a déclaré à son tour, plus de 70 ans après.
Le mémorial est un symbole de la résistance, du dévouement et de l'héroïsme de ces 2500 hommes tchécoslovaques qui ont participé à la bataille d'Angleterre et qui méritent la gratitude, le respect et l'admiration du peuple britannique.
Après la démobilisation de l'armée tchécoslovaque et la création du protectorat de Bohême-Moravie en 1939, les Tchécoslovaques résolus à combattre ont quitté leur pays pour rejoindre les armées alliées. Les départs ont eu lieu dans des circonstances dangereuses, comme le décrit l'historien Ladislav Kudrna de l'Institut pour l'étude des régimes totalitaires.
Lorsque la Bohême et la Moravie se sont retrouvées occupées, les aviateurs tchécoslovaques rejoignaient l'étranger via la Pologne voisine, ce qui est devenu impossible après l'invasion de la Pologne par Hitler en septembre 1939. Les pilotes ont ainsi été obligés d'emprunter la voie dite du Sud, conduisant à travers la Hongrie, la Yougoslavie, la Grèce et Beyrouth jusqu'au sud de la France. Les pilotes tchécoslovaques ont été 2402 à combattre sous les couleurs de la RAF, où ils ont servi au sein des célèbres 310e, 311e, 312e et 313e escadrons. Je pense pouvoir dire que les unités aériennes tchécoslovaques ont représenté l'élite de la résistance étrangère en Occident.
D'une taille de 2 mètres, le lion ailé se trouve sur un socle recouvert de granit en forme de cercle qui, vu d'en haut, évoque les armoiries de l'aviation militaire tchèque. Cette statue de bronze dont l'auteur est le sculpteur britannique Colin Spofford a été moulée à l'atelier de Horní Kalna en Bohême du Nord. Des corps de batteurs et de cornemuseurs ont accompagné l'inauguration du monument. Un survol du chasseur légendaire Spitfire a complété la cérémonie à laquelle 8 anciens combattants tchécoslovaques de la RAF ont pris part. Parmi eux, Petr Harton, venu d'Israël où il s'est réfugié après son départ de Tchécoslovaquie et qui a servi comme navigateur du bombardier Liberator.
Une fois, notre avion se dirigeait droit en face d'un appareil Junkers. Le plus important dans ce cas de figure est de garder son calme sous peine d'être abattu. C'était un jeu de nerfs. Notre pilote a tenu bon et c'est le Junkers qui s'est écrasé.
Parmi les 2402 Tchèques et Slovaques ayant servi dans la Royal Air Force, 493 ont été tués dans les combats, car tous n'étaient pas des pilotes, ainsi que le rappelle l'historien Kudrna.
Mis à part les hommes en uniforme bleu, les équipages tchécoslovaques comprenaient également les membres du personnel non navigant. D'autres soldats ont rempli des fonctions administratives ou ont servi comme officiers de liaison dans l'aviation royale britannique ou dans des unités d'entraînement.
František Feitl, Karel Kutlvašer, František Peřina, Petr Uruba. Tels sont les noms de quelques-uns des pilotes légendaires engagés dans les campagnes de France et d'Angleterre. La guerre terminée, ces héros ont été victimes des représailles et ont figuré parmi les grands oubliés de l'après-guerre. Comme l'explique Ladislav Kudrna, le pouvoir communiste voyait d'un mauvais œil les résistances des fronts de l'Ouest.
Déjà avant le coup d'État de février 1948, ces combattants avaient manifesté leur désillusion vis-à-vis du fonctionnement de la démocratie limitée. Contrairement à l'armée d'avant-guerre, celle d'après 1945 reposait sur des bases politiques. Les pilotes engagés dans la bataille d'Angleterre entraient souvent en conflit avec les officiers, pour la plupart communistes, qui se méfiaient de ces hommes. Après la guerre, 444 anciens pilotes de la Royal Air Force servaient encore dans l'armée tchécoslovaque, mais seuls 13 d'entre eux y sont restés suite aux purges d'après février 1948.
L'inauguration du mémorial dédié aux aviateurs tchécoslovaques qui ont combattu dans la RAF suscite toutefois des controverses. L'Institut national du patrimoine s'est opposé à ce que le monument soit installé à Malá Strana, quartier historique protégé de l'UNESCO. C'est pourquoi rien aujourd'hui ne permet d'affirmer que le mémorial exprimant la reconnaissance des Britanniques restera à sa place. Si l'initiative est saluée par les historiens, parmi lesquels Jiří Rajlich, ceux-ci réfutent cependant la version selon laquelle le monument est le premier du genre dédié aux pilotes tchécoslovaques de la Royal Air Force. Un autre monument rendant hommage aux aviateurs se dresse depuis 1995 sur la place de la Liberté dans le 6e arrondissement de Prague-Davice. Alors que le mémorial britannique fraîchement inauguré unit deux symboles, le lion de Bohême figurant sur les armoiries de l'État et les ailes en souvenir de l'héroïsme des aviateurs, la sculpture centrale du monument de Davidson symbolise les ailes brisées. Sur les plaques installées sur les côtés sont inscrits les noms des 546 pilotes tchécoslovaques morts pendant la Deuxième Guerre mondiale. Enfin, comme le précise encore Jiří Rajlich, un mémorial reprenant les noms des 493 aviateurs tchécoslovaques de la RAF tombés durant la bataille d'Angleterre se trouve au cimetière militaire de Brookwood en Grande-Bretagne. Bien que de nombreux corps aient été rapatriés après la guerre en Tchécoslovaquie sur demande de leur famille, leur mémoire est honorée sur des croix et des plaques sur lesquelles figurent le nom, le grade et la de décès de chacun de ses héros.
Voilà, c'est avec cet hommage aux pilotes tchécoslovaques qui ont combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale dans la Royal Air Force que s'achève cette émission. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous était présenté par Pierre Ménian. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Ahoy.